Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour le tout dernier numéro dans le bunker de ces épisodes de confinement, pour un confinement qui s'achève donc, au moins partiellement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Yves Trottignon, analyste passé par les services de renseignement, chercheur et auteur aussi de multiples articles et ouvrages sur les représentations de la guerre à l'écran, notamment un long et exhaustif article sur les films français de guerre dans le numéro de la revue Inflexion, qui était consacré en fin d'année dernière au thème guerre et cinéma. Donc bonjour Yves Trottignon.
Bonjour.
Alors, vous étiez déjà venu au tout début du format aussi pour parler d'un pont trop loin, ce qui était le deuxième épisode, et la boucle est donc en quelque sorte bouclée puisque vous revenez nous parler d'un autre immense film de guerre, à savoir Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979, avec notamment Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Dennis Hopper et d'autres encore, même un très très jeune Laurence Fishburne. Alors, c'est un film gigantesque qui se situe évidemment au cœur de la guerre du Vietnam, qui est sorti quelques années à peine après la fin de la guerre du Vietnam, mais c'est aussi une adaptation de la très belle nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui se situe dans l'Afrique coloniale, et c'est pas totalement indifférent parce que c'est pas seulement un film de guerre que, sur le Vietnam comme pouvait l'être par exemple Full Metal Jacket, c'est aussi un film qui tourne autour, disons, de la colonisation, d'une problématique qui est très typique des sociétés coloniales, qui est la peur de l'ensauvagement, la peur de perdre son identité une fois qu'on est plongé dans un milieu étranger. Alors là, j'essaie d'en donner une approximation, mais comme on l'entend, je pense que c'est extrêmement hasardeux, pas très compréhensible, et c'est sans doute peut-être impossible. Je viens de revoir le film, ça doit être la troisième ou quatrième fois que je le vois, et je suis toujours pas totalement certain de savoir vraiment ce qui fait le cœur et le sujet du film. Donc je vais plutôt vous laisser essayer à votre tour, mais disons simplement que c'est sur le Vietnam, sur la folie, et puis aussi pour rester un peu selon un angle militaire, sur ce que c'est que d'intervenir dans un pays qu'on ne comprend pas vraiment, et qui reprend ses droits et qui vous engloutit, aussi bien individuellement, que un peu de la même manière qu'il a englouti une bonne partie de la puissance militaire et symbolique américaine au XXe siècle. Donc dites-nous, Yves Trottignon, ce qui vous intéresse, alors dans ce chef-d'œuvre évidemment total, même si c'est aussi un film très tourmenté, on en reparlera je pense, dans sa production comme dans son résultat, donc cet Apocalypse Now qui est probablement dans une certaine mesure une sorte de culminement du genre du film de guerre.
Oui, c'est un film monstrueux, parce qu'à chaque fois qu'on le voit, on découvre ou on redécouvre des pistes de réflexion. C'est pas tant un film de guerre parce qu'il montre des combats qu'un film qui montre le vertige de la puissance. C'est un film sur des crimes de guerre, parce que finalement, on s'y bat assez peu, mais on y bombarde des villages, on y tue des civils dans des bateaux sur le fleuve. C'est un film qui est au plus près des personnages. Hein. Il y a quand même c'est un film très long, parfois très contemplatif, où on a chaud, on remonte un fleuve. Avec un agent des services de renseignement qui lit un dossier, qui transpire à grosses gouttes sur du papier pelure, c'est assez étonnant. Et de temps en temps, il y a des pics de violence aveugle, comme ça. On a l'impression que les Américains ne savent pas bien ce qu'ils font dans cette guerre. En tout cas, tout le monde est désabusé. Il n'y a pas un seul combattant vraiment enthousiaste qu'on croise. Les seuls combattants enthousiastes qu'on croise sont les pilotes et les combattants de la First Air Cav qu'on voit attaquer un village dans une scène, une séquence qui est devenue absolument mythique et qui a été reprise des milliers de fois ensuite.
Thank you.
et en même temps, c'est glorieux, et puis ça ne l'est pas. Ça évoque les crimes de guerre américains contre les Amérindiens du XIXe siècle. C'est un film monstrueux par le vertige qu'il provoque. On voit à un moment donné Francis Ford Coppola avec une équipe de tournage de télévision sur une plage, et on se souvient que c'est aussi un film sur le spectacle de la guerre, avec une esthétisation fascinée.
Alors ça, on va préciser, c'est précisément dans ce premier assaut avec la première cavalerie aéroportée qu'on voit à un moment, effectivement, c'est un plan très court, où on voit un cinéaste qui dit bah, « Allez-y, regardez pas la caméra », ce qui est une mise en abîme du cinéma qui fait un film de guerre, mais qui reste un film. Enfin bon, c'est assez fou, quoi.
Ça anticipe ce qu'on verra après en Somalie, quand les Américains débarqueront dans les années 90, avec des caméras de CNN quasiment plus proches que les soldats eux-mêmes du combat. Mais les Américains se voient, enfin, le film en tout cas montre des Américains se regardant combattre, enivrés par leur propre puissance, tapant un peu comme des sourds sans trop savoir ce qu'ils font, parce que personne ne parle jamais du but de la guerre américaine au Vietnam dans le film. Le film dure dans ses différents montages parfois plus de 3 heures, et la guerre est là, on se bat, on tue des ennemis. Dans quel but, on ne sait pas. Et finalement, le système devient fou, puisque la mission du personnage principal du film, c'est de remonter un fleuve pour aller tuer un officier des forces spéciales qui a totalement dévissé, en fait, et qui s'est monté une espèce de principauté guerrière au fin fond de la jungle, au Laos. Donc c'est un film aussi, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Coppola dans une interview, mais c'est un film sur la perte de repères, sur la puissance excessive qui prend le contrôle, finalement, de l'autorité politique. On fait la guerre, on a des hélicoptères, on a des bateaux, on peut faire n'importe quoi, donc on fait n'importe quoi. Et le film, pour ça, est aussi typique du nouvel Hollywood un peu onirique. Hein, c'est la fin des années 70, c'est l'époque où Michael Cimino va faire la Porte du Paradis. Enfin, c'est ces espèces d'énormes productions artistiquement très novatrices qui, dans les deux cas, que ce soit pour Cimino ou pour Coppola, vont conduire à des échecs financiers terribles. Hein. Coppola est quand même ruiné à la fin du tournage.
Ouais, ça on va en reparler parce que ça fait partie de la folie. Mais alors, juste pour rester simplement, même si c'est compliqué parce que vous l'avez dit, c'est pas vraiment un film de guerre, mais il y a quand même, en tout cas en y réfléchissant, en faisant de gros efforts pour le voir, comme on essaie d'analyser les autres films qu'on a fait jusque-là, il y a quand même une problématique, disons, qui est vraiment militaire. C'est la dialectique qui apparaît beaucoup entre armée de métier, armée de spécialistes, et armée de masse, conscription, dans le cadre d'un conflit dissymétrique. Puisque, globalement, on va quand même rappeler que c'est ça qu'on perçoit en filigrane. C'est la théorie du colonel Kurtz, donc celui qui est perdu, Marlon Brando. C'est que, globalement, pour gagner cette guerre, il faut des troupes d'élite. Pour contrer la guerre irrégulière Viet Cong, il faut des spécialistes, il faut des forces spéciales, ce que lui, il est. Et ce qu'on voit, concrètement, c'est l'envers complet de ça. C'est ce qu'ont été les États-Unis au Vietnam, quoi. C'est la conscription et tout ce que ça amène, c'est-à-dire une société entière qui débarque dans la guerre, quoi.
Ça me rappelle un débat qui a eu lieu récemment sur Twitter avec des tweets de Jean Michelin et de Michel Poya sur la figure du super combattant, voire du super guerrier par rapport à l'armée de conscription, l'armée de citoyens. En fait, ce que Kurtz veut plus qu'une armée d'élite, l'armée de forces spéciales, il veut une armée de tueurs. Ce que Kurtz défend, à la fois dans ce qu'on entend des enregistrements que la CIA a interceptés, et après de ce qu'il dit lui-même au capitaine Willard à la fin du film, c'est que ils sont là pour tuer. Ils sont là pour n'avoir aucune pitié. D'ailleurs, Brando balaye de la main les accusations en disant « mais on m'accuse d'avoir tué des gens, alors qu'est-ce qu'on fait nous ici? On tue tout le temps des gens ». Et ça,
c'est présent dès le début. C'est peut-être ça le cadre général. C'est presque dès les premières scènes. Willard, donc le personnage de Martin Sheen, dit mais crime de guerre, ça n'a pas de sens. On fait que ça, des crimes de guerre.
C'est ça. Ils ne font que des crimes de guerre dans une guerre qui est devenue totalement folle. D'ailleurs, Willard, c'est la première scène extraordinaire du film.
Thank you.
avec les hélicoptères, la musique des Doors, et lui dans sa chambre, expliquant que finalement il va absolument retourner se battre. En fait, ils sont drogués, lui et Willard sont drogués à la guerre. Ce sont plus que les super combattants, ce sont quasiment des psychopathes. Et le film est aussi, parce que le film est beaucoup de choses, le film est aussi la façon dont le capitaine Willard remonte le fleuve pour aller tuer quelqu'un qu'il est en train de devenir. C'est-à-dire de devenir cette espèce d'officier supérieur à la carrière incroyable, mais qui perd totalement les pédales, en fait.
Ouais, mais et on voit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un décalage énorme entre lui, son cheminement intérieur, et en même temps aussi des moments où ils se rejoignent, mais et tout ce qu'il traverse, parce que c'est ça, en tout cas les deux tiers, voire les trois quarts du film, c'est qu'il traverse la folie des États-Unis au Vietnam. Alors il traverse. Alors il y a cette scène incroyable de cavalerie aéroportée, mais ensuite il y a une scène avec des playmates qui sont héliportés au milieu de la jungle pour les soldats. Ensuite, il y a des soldats qui pètent les plombs le long d'un pont qui sont censés garder, mais qui sautent tous les soirs et qui reconstruisent tous les jours. Et enfin, c'est aussi ça. Ce que je veux dire, c'est que ça montre, c'est une représentation de ce que ça fait quand on déverse toute une société par la conscription, en train de changer brutalement dans un conflit. Ils deviennent pas des militaires, c'est simplement ils font à peu près le même n'importe quoi qu'en métropole, sauf que là ils le font avec des armes et sur un terrain de conflit, quoi.
Ah bah c'est une armée en pleine déshérence, hein. Ce qu'on observe en particulier sur la scène du pont ou la scène des playmates, de Playboy, c'est absolument incroyable, une armée qui n'est pas disciplinée. Alors, après, le cinéma américain montre souvent, pour la guerre du Vietnam, une armée de grande gueule, indisciplinée, qu'on n'imagine pas du tout dans l'armée française, en tout cas dans les films sur l'armée française, on ne voit jamais ça. Il ne faut pas oublier que le scénario est fait par Coppola et John Milius. John Milius, c'est...
L'immortel réalisateur de Conan le Barbare.
Voilà, réalisateur... scénariste, militariste forcené, militariste à tel point que les frères Cohen s'inspirent de lui pour créer le personnage de Walter Sobchak dans Bill Lebowski. C'est le type qui se balade avec des flingues et des porte-chargeurs dans Hollywood. Et John Milius, bon, c'est lui qui a fait Conan le Barbare. Il apporte, je pense, au film ce côté très militariste, ce côté très martial, ce côté c'est pas des spartiates, c'est plus que ça. On a affaire à des criminels de guerre qui s'assument. Enfin, le colonel Kurtz n'a aucun remords d'aucune sorte. Et Willard, qui se pose plus de questions, lui est quand même séduit par l'adrénaline du combat. Enfin, il est quand même en train d'invoquer la figure de Viet Cong dans sa chambre d'hôtel à Saigon au début en disant à chaque fois que je suis là, l'ennemi se durcit, moi je me ramollis. Enfin, c'est assez étonnant parce que on a l'impression parfois que tout le film est sous produit hallucinogène. D'ailleurs, c'était le cas sur le tournage de ce livre.
On va en reparler, mais effectivement, oui, et ça va plus en avance. Et là, en revoyant le film, je me dis, il y a un moment où il y a un des personnages, enfin le surfeur évidemment, qui dit qu'il a pris une tablette d'acide. En fait, on finit par se demander si on n'est pas tous dans sa tablette d'acide et dans son hallucination qui termine pas jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose de profondément hallucinogène dans le milieu, dans cette nature étouffante, mais qui renvoie aussi à, disons, une période hallucinogène des années 70-80, quoi.
Oui, on est vraiment loin de ce que va faire Cimino dans Voyage au bout de l'enfer, dans ce que va faire Oliver Stone plus tard dans Platoon. C'est pas un film qui veut montrer des combats de façon réaliste. Il y a aucune ambition idéologique évidente. Enfin, c'est pas le film de propagande de John Wayne sur les bérets verts en 68. C'est pas un film qui dénonce de façon un peu puérile. C'est même si c'est un film finalement très politique sur le fond, parce que c'est aussi ça rappelle Norman Mailer dans son livre Brûlot, Pourquoi nous sommes du Vietnam. Enfin, il y a quand même ce côté de la violence aveugle des États-Unis, de l'armée américaine, de sa puissance de feu infinie qui finalement règle tous les problèmes ou n'en règle pas, au choix.
Ouais, mais alors maintenant, faut peut-être dire quand même un mot du tournage, parce que c'est un film sur la folie. Bon, ça, on l'a dit, enfin sur l'entrée progressive dans la folie et dans une hallucination qui se dissipe jamais. Mais c'est aussi un film fou, quoi. Alors il y a tout ce qui est autour du tournage dont on va peut-être parler, mais ne serait-ce que quand on voit les moyens engagés, c'est insensé, quoi. La scène de la cavalerie aéroportée. Typiquement, enfin la scène où il y a, je sais pas, une quinzaine d'hélicoptères en l'air qui sont filmés sous toutes les coutures. C'est vraiment dingue, quoi. Personne ne fait ça. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on peut dire que c'est un film de guerre sans être un film de guerre, mais c'est aussi un film de guerre classique où il y a vraiment des moyens, des explosions, où on filme la guerre, où on filme les équipements guerriers avec des moyens qui ont été rarement atteints, quand même.
Alors, on avait rarement vu effectivement des navires, des petits patrouilleurs soulevés du niveau de la mer par des hélicoptères. On avait rarement vu un raid de F5 ravageant littéralement une bordure forestière au napalm. Et puis, alors, ce qui est d'autant plus hallucinant quand on se souvient que aussi bien les avions que les hélicoptères utilisés étaient de l'armée philippine et que entre deux tournages, entre deux séquences tournées, ils allaient bombarder des rebelles communistes. Enfin, on est au plus proche de la guerre parce que les moyens engagés pour faire ce film font aussi la guerre. C'est tout à fait sidérant. Effectivement, c'est jamais arrivé parce que les films de guerre maintenant que les Américains tournent au Moyen-Orient, enfin sur le Moyen-Orient, sont tournés au Maroc avec du matériel militaire marocain, ce qui est très voisin du matériel militaire américain. Donc on voit les Black Hawk, on voit les Hercules. À l'époque, pour des raisons évidentes de climat, la jungle accessible aux États-Unis, c'était la jungle philippine. Il se trouve que les Philippines étaient
notamment
à
par la
l'époque.
proximité de la base de Guam aussi. Enfin bon,
Exactement, il y a Guam, il y a deux bases aériennes à l'époque américaines aux Philippines. Et donc, et puis bon, le régime philippin est à l'époque ce qu'il est. Enfin, ceci dit, il n'y a
Oui,
pas
c'est ça.
grand-chose non plus maintenant, mais bon, bref, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Les Philippins eux-mêmes ayant participé à la guerre du Vietnam, la Philippine étant une base arrière de la guerre du Vietnam, donc il y a quelque chose de très presque incestueux en fait entre un film qui voudrait dénoncer ou montrer une guerre hallucinée et puis les moyens utilisés pour le faire, qui sont des moyens typiquement d'un régime très corrompu. Enfin, les journalistes racontent qu'il y a sur le tournage de la drogue, des prostituées, que
Bah,
personne n'est à jeun ou pas
faut le dire,
totalement.
ça fait partie des corpus d'anecdotes de tournage les plus dingues de l'histoire du cinéma, qui sont complètement légendaires, dans le sens où c'est légendaire, mais il y a aussi beaucoup de légendes. Mais il y a tout eu, enfin, le héros principal était censé être Harvey Keitel, mais il se fait virer au bout de quelques semaines, même pas, et c'est Martin Sheen qui arrive. Il y a un ouragan qui détruit tous les sets de tournage, ils sont obligés de tout reconstruire. C'est même Martin Sheen, quoi, il se fait un infarctus à la fin du tournage et il en parle à personne pour pas mettre en danger la fin du film. Enfin, il y a tout, quoi. On comprend qu'on dit beaucoup que Francis Ford Coppola est devenu fou, un peu de manière semblable à celle de Willard, au fur et à mesure du tournage, et on comprend pourquoi. Il est arrivé, c'est le film maudit, le film halluciné, le film dingue, et les conditions de production sont à l'unisson, quoi.
Alors, c'est tellement incroyable que l'épouse de Coppola, Eleanor Coppola, en fait, a une petite caméra et prend des images du tournage qui sont rassemblées dans un documentaire dans les années 80, fin des années 90, les années 90, qui s'appelle Au cœur des ténèbres, justement. Et dans ce documentaire, qui dure 1 heure et demie, on voit justement le tournage. Alors, elle a aussi publié un livre qui en reprend ce qui était écrit dans le, enfin, ce qui est montré dans le. Dans le documentaire. Et effectivement, des tournages comme ça, c'est absolument homérique, on n'en a plus jamais vu. Coppola a failli pas s'en remettre. Alors, d'un point de vue de sa santé, on était durablement affaibli, mais financièrement, il passe les années 80 à rembourser ses dettes et ses hypothèques en tournant des films de commande, alors qui sont tous très bons parce que c'est quand même Coppola, c'est l'homme aux 5 Oscars, aux 2 Palmes d'Or. C'est un palmarès unique dans l'histoire du cinéma, mais le film est dur. Dur dans l'esprit du spectateur, dans la mémoire du spectateur. Il est frappant aussi. C'est la fin des très grands cinéastes auxquels les studios d'Hollywood laissaient la bride sur le cou dans les années 70. C'est le retour à un contrôle managérial et financier plus sérieux des tournages. Et puis, c'est le dernier très grand film de Coppola, même s'il y aura après Le Parrain 3 et Dracula, mais c'est quand même quelque chose de. C'est certainement son acmé.
Mais non, mais ça fait partie du truc aussi. C'est-à-dire Coppola, à cette époque-là, sort des Parrains 1 et 2. On peut pas être plus haut par rapport au studio, on peut pas être plus haut dans l'histoire du cinéma. Et il réussit à tout perdre, il hypothèque tout pour pouvoir terminer. Je crois qu'il est même obligé de vendre une partie du film à une université locale. Enfin, il se met littéralement à nu. Je crois qu'il perd aussi 40 kilos sur le tournage. Il est ravagé par la drogue, par la fièvre. Enfin, c'est un naufrage complet, ce film. Et c'est peut-être pour ça qu'il a peut-être un supplément d'âme aussi par rapport à d'autres films. C'est que c'est un naufrage qui correspond au naufrage qui est représenté à l'écran, qui correspond au naufrage de l'artisan principal de ce film, quoi.
Oui, alors c'est un naufrage financier, mais c'est pas du tout un naufrage artistique. C'est ça qui est
Non.
impressionnant, c'est que on a vu des films. Enfin, on pourrait penser au Dune de David Lynch, qui est un film pareil, un film monstrueux, mais qui est raté. On a beau adorer David Lynch et Frank Herbert, on est toujours très déçu quand on retente de revoir le film de Lynch consacré en tout cas aux 4 premiers livres de Dune. Et dans le cadre de Coppola, son adaptation est indépassable. Enfin, et effectivement, financièrement, c'est un naufrage. Il y a des acteurs qui s'en remettront pas. Enfin, Marty Sheen l'année dernière, en temps de scie, jusqu'à faire dans les années 2000 la série sur la Maison Blanche. Mais sinon, Robert Duvall ne fera plus grand-chose après. Enfin, il va pas faire Le Parrain 3, par exemple. Et Coppola est effectivement au sommet de son art lors du tournage, parce que on parle des deux parrains, le parrain 1, le parrain 2, qui sont deux monuments, mais il y a aussi Conversation secrète, en 74, avec Gene Hackman, qui est aussi un énorme film politique, et qui reste très marquant 30 ans plus tard.
Ouais, bon bah c'est mais c'est voilà, c'est un film sur tout ce que peut être la guerre du Vietnam, non seulement techniquement, non seulement historiquement, parce qu'il y a des choses, il y a des anecdotes quoi, mais c'est aussi un film sur ce qu'a représenté, sur ce qu'a symbolisé le Vietnam pour toute une société américaine, et ben, ouais, aussi bien dans sa dimension artistique que dans sa dimension culturelle au sens plus large quoi.
Ce qui est clair, c'est que entre le discours tenu par les Américains, les officiels américains des années 60 et des années 70 sur la guerre du Vietnam, la défense de la démocratie, les valeurs, y compris après l'offensive du Tet, et ce que montre le film, c'est-à-dire des boys déchaînés après des plaies maîtres, de la drogue, des crimes de guerre, et des crimes de guerre pas commis par des forces spéciales. On ne parle pas du projet Phoenix, on parle de trois marins sur un patrouilleur de rivière en train de massacrer une famille sur une jonque. De voir aussi que finalement l'américaine fait la guerre contre elle-même. On n'est pas tant en train d'essayer d'abattre l'adversaire ou de le vaincre militairement ou de porter un projet politique alternatif que d'essayer de liquider un type qui a perdu totalement les pédales et qui est parti au fin fond du Laos se monter une petite monarchie personnelle. Le tout filmé par une des icônes du nouvel Hollywood qui est Dennis Hopper avec ce qui se trimballe avec son bandana et ses trois Leica autour du cou pour prendre des photographies, tout ça. Le tout dans une ambiance de temple vietnamien ou laotien détruit, de cadavres partout, de flèches tirées. On retrouvera la question d'ailleurs des flèches tirées sur les militaires américains dans Le Jardin de Pierre en 88, du même Coppola qui fait un film de guerre sur le Vietnam qui est l'Anti-Apocalypse Now, qui est un film très intimiste qui se passe à Washington autour du cimetière d'Arlington.
Alors on peut parler aussi simplement d'une scène, enfin ben, toute une phase qui est intéressante, qui est présente seulement dans la version très longue, donc la version ironiquement, j'imagine, surnommée Redux, qui est toute une scène dans une plantation française, en plein milieu du film, qui a été complètement coupée de la sortie en salle, la première, qui est quelque chose d'assez fou aussi. C'est-à-dire c'est des Français qui ont survécu à la fin de l'Indochine française, qui ont monté une espèce de semi-milice et qui parlent pendant longtemps de c'est le problème de cette scène, c'est qu'elle est un peu bavarde, mais qui parlent pendant longtemps de ce que c'est que les Français, du vice des Américains qui ont chassé les Français, qui se retrouvent maintenant dans le même bourbier. Et voilà, enfin, Coppola s'est essayé aussi à cette espèce d'histoire comparée de la colonisation. Du point de vue français et américain, comment dire, de montrer en quelque sorte l'impasse et le spectre de la présence française en Indochine, presque comme un augure de ce qui va se passer pour les Américains.
Oui, alors il garde cette scène dans le dernier montage qui est sorti l'année dernière, qui en particulier a été projeté au Grand Rex au mois de septembre, au mois d'octobre, je sais plus. Enfin, j'étais allé voir, c'était toujours très impressionnant de voir le film sur un très très grand écran. Il garde effectivement cette scène de la plantation. Ce qui est frappant, alors il y a un côté, alors ça évoque John Orfer, ça va évoquer certains bouquins de l'Artegui, ça va évoquer
C'est très très beau aussi. J'avais oublié, mais il y a une scène d'apparition des Français complètement spectrale dans la
Tout à fait,
brume. C'est
exactement,
peut-être
dans la brume.
le plus beau
Et
plan du film. C'est incroyable et rien que pour ça mérite de voir la version qui l'inclut,
oui,
quoi.
cette scène-là est incroyable. D'ailleurs, la dernière version qui est sortie l'année dernière est certainement la meilleure des trois versions diffusées depuis 79, parce qu'elle garde justement cette scène de la plantation. Et effectivement, c'est à la fois l'impasse du projet colonial et aussi, ce qui est très impressionnant, c'est l'aveuglement de ces colons français qui s'accrochent encore, alors qu'ils sont perdus au milieu de la jungle et que la guerre est perdue. Alors nous, on sait, en tant que spectateur, que la guerre est perdue, mais Willard le sait aussi que la guerre est perdue. Et eux sont là, vivent comme des aristocrates, quasiment d'avant l'invasion japonaise, donc vraiment d'avant la Seconde Guerre mondiale, et ils sont totalement déconnectés. Il y a un côté, alors est-ce qu'il y a un côté vieux monde? Est-ce qu'il y a un côté aristocrate décadent?
Mais c'est aussi ce qui permet de faire le pont avec la nouvelle de Conrad, pour le coup. C'est-à-dire le fait que c'est vraiment un sujet colonial, et c'est... La nouvelle de Conrad, on va le dire, se passe en Afrique coloniale, et c'est un administrateur colonial, qui, je crois que c'est un collecteur d'ivoire, qui perd les pédales aussi complètement, parce qu'il est enfoncé dans cette société sauvage. Ça permet aussi de rappeler que c'est pas seulement un film de guerre, c'est aussi un film sur ce que c'est que se faire coloniser alors qu'on est colonisateur.
Tout à fait.
Et puis par ailleurs, c'est aussi le prétexte à des grandes dialogues sur l'éthique de l'officier supérieur français.
Non !
Contrôlez-vous un peu, non ?
Assez ! You don't understand our mentality, the French officer mentality. First, we lose in the Second World War. I don't say that you Americans win, but we lose. Assez, quand je parle, on se tait. In Dien Phu, we lose. In Algeria, we lose. In Indochina, we lose. But here, we don't lose. This piece of earth, we keep it. We will never lose that, never.
The Americans. Et ces grandes différences avec l'officier supérieur américain qui ne manque pas de faire s'ouvrir quand on les revoit aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Trottignon.
Je vous en prie.
J'en profite aussi pour remercier donc à l'occasion de cette dernière tous les invités qui sont passés dans le bunker, ainsi que tous ceux qui ont écouté cette série qui était extrêmement plaisante à faire et qui termine donc avec cet immense film qui est Apocalypse Now, qu'on ne saurait trop inviter à voir et revoir, même s'il faut prévoir un bon moment et pas mal de patience, parce que c'est très long, très lent et très intense. Voilà, le collimateur reprend donc maintenant son rythme normal, deux fois par semaine. J'espère que ce format vous a plu. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Et à la prochaine fois.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.